Bien, alors puisqu'on parlait du livre, effectivement, c'est un de mes tout premiers livres quand j'étais très jeune. Et j'avais pas trouvé d'éditeur en France. J'étais allé voir beaucoup d'éditeurs. J'aurais dit, voilà, c'est un sujet intéressant. Il n'y a jamais eu de livre sur De Gaulle et Churchill. C'était en 78. Et il devrait y en avoir un. Et l'éditeur n'était pas très intéressé. Et il y en a un qui m'a dit, écoutez, oui, c'est un bon sujet, mais vous, vous n'êtes pas connu. Si encore vous étiez... Alors, il y avait dit un politicien... une starlette ou un repris de justice, ça pourrait marcher. C'est la grande époque de Mesrine, vous savez. Et donc, il n'a jamais su qu'il aurait pu se faire des nouilles encore. Et donc, j'ai dit à l'éditeur, écoutez, quand j'appartiendrai à une de ces trois catégories, je reviendrai vous voir. Et finalement, comme j'étais en Angleterre à l'époque, j'ai pensé que les éditeurs anglais étaient plus intelligents, donc j'ai envoyé trois chapitres au hasard à 8 éditeurs, enfin pas tout à fait au hasard d'ailleurs, j'ai pris les meilleurs, mais enfin à 8 éditeurs, et j'ai reçu 7 contrats, donc proposition de contrat. Donc il est paru en anglais, et l'année d'après je me suis fait payer pour le traduire en français, ce qui est très agréable, parce que d'abord vous récoltez deux fois la somme. Et aussi parce que s'il y a des problèmes pour la traduction, bah vous faites autre chose et personne ne vous accusera d'avoir trahi la pensée de l'auteur. Donc c'est très confortable. Et ce qui m'a encore plus étonné, c'est que depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Ça reste le seul livre sur la question, d'ailleurs, ce qui explique justement que ce soit le meilleur. Alors... on va se replonger dans l'atmosphère de cette rencontre, et vous verrez que ça vaut la peine et que c'est un petit peu déconseillé au cardiaque. La toile de fond de cette histoire, c'est le désastre complet qu'ont subi les armées franco-britanniques entre le 10 mai et le 4 juin 1940, ce qui s'est terminé, comme vous le savez, par l'évacuation de Dunkerque. Alors, après cela, quand De Gaulle rencontre pour la première fois Winston Churchill à Londres, le 9 juin 40, ça fait seulement 3 jours qu'il est sous secrétaire d'État à la guerre et général de brigade à titre temporaire. C'est un militaire qui est un petit peu perdu au milieu des politiciens du gouvernement de Paul Reynaud. Et à Londres, on lui a confié une mission pratiquement impossible, consistant à demander à Churchill des renforts de troupes et d'aviation, à un moment où les Anglais, évidemment, sont eux-mêmes assez démunis. Et de fait, Churchill lui-même est dans une position très précaire. Hein. Il est en fonction depuis un mois à peine. Il n'a pratiquement plus d'armée. Et ce qui reste est à laisser toutes ses armes lourdes et ses moyens de transport sur les plages de Dunkerque. Les partisans de la négociation avec Hitler n'ont pas désarmé du tout en Grande-Bretagne et de fait les conservateurs se méfient de lui, les travaillistes et les libéraux aussi d'ailleurs. Seulement, Churchill tient par la force de sa personnalité et par la puissance de son éloquence et finalement, c'est ce qui impressionne d'emblée le général de Gaulle. Souvenez-vous, ce passage des mémoires de guerre, l'impression que j'en ressentis m'affermit dans ma conviction que la Grande-Bretagne, conduite par un pareil lutteur, ne fléchirait certainement pas. Alors, Churchill est tout aussi impressionné par de Gaulle. Il a lu le récit de ses récents exploits, vous savez, à Montcornet, à Abbeville, d'autant que la propagande de guerre a un petit peu magnifié tout cela. Et le 9 juin, Churchill a constaté que ce général français, très atypique à tous égards, n'a pas même semblé envisager l'éventualité de la défaite. Hein. Seulement, évidemment, Churchill sait bien que de Gaulle ne parle qu'au nom du président du Conseil, Paul Reynaud, hein, celui-là. Il sait aussi que Paul Reynaud est notoirement versatile. Et puis, de toute façon, Churchill n'a pas de nouvelle escadrille à affecter au front de France. Elles disparaissent très vite hein, dans ce bourbier. Et en plus, il peut donner à de Gaulle aucune assurance quant à l'envoi de nouvelles troupes rééquipées après ce fameux sauve-qui-peut de Dunkerque. Alors par contre, Churchill lui-même va payer de sa personne très fortement, en se rendant pour la quatrième fois en France depuis le début des hostilités. C'est le 11 juin à Briare en particulier où... Et là, il trouve chez les dirigeants français un extraordinaire degré de pessimisme. D'ailleurs, on les voit là, ils sont là. Le gars derrière, c'est son détective privé. Et je crois que c'est devant le château, justement. Et ce qu'il trouve chez les dirigeants français, effectivement, c'est un extraordinaire degré de pessimisme. Hein. Après seulement un mois de combat... Gamelin, Pétain, Georges, Végan, le président Lebrun, et puis même Paul Reynaud, paraissent déjà parfaitement résignés à la défaite. Alors, Churchill est catastrophé parce que il aime tout de la France, hein, son histoire qu'il connaît parfaitement, ses héros, hein, Jeanne d'Arc, Napoléon, Clémenceau, c'est bizarre pour un Anglais, hein, mais c'est un Anglais atypique, Churchill. Hein. Ses paysages, hein, notamment la Côte d'Azur, où il allait souvent, et puis ses casinos, son cognac, son champagne, sa langue, hein, la seule langue étrangère qu'il massacre couramment. Et puis surtout l'armée française, qu'il a toujours admirée hein, depuis 1907, hein, et qu'il a toujours considérée comme la toute première d'Europe. Et voilà qu'en entendant les rapports et les lamentations des généraux français, il s'aperçoit qu'il s'est trompé. Et Churchill déteste admettre qu'il s'est trompé. Alors à Brière, au milieu de tous ces petits hommes bavards, agités, désespérés, Churchill retrouve ce sous-secrétaire d'État de Gaulle, hein, qui est flegmatique, qui est pugnace, et qui est résolu à poursuivre la guerre, en France si possible, outre-mer si nécessaire. Et cette fois encore, Churchill est suffisamment impressionné pour écrire au président Roosevelt, dès le 12 juin, « Reynaud est secondé par un certain général de Gaulle qui est jeune et qui pense que l'on peut faire beaucoup. » Et le lendemain 13 juin, après la conférence franco-britannique à la préfecture de Tours, une conférence qui s'est très mal passée, hein, il faut bien le dire, Churchill revoit le général dans le couloir hein, et il s'arrête devant lui et il murmure « l'homme du destin ». C'est pas mal l'homme du destin pour un 13 juin devant quelqu'un qui est totalement inconnu. Hein. Bon. Alors évidemment, on demandera plus tard à de Gaulle s'il a entendu ces deux mots prophétiques. Hein, et Churchill a répondu, de Gaulle a répondu « Non, je ne l'ai pas entendu, mais vous savez, Churchill, c'est un romantique. » Seulement, oui, il faut se souvenir que les deux hommes s'entretenaient dans un couloir très bruyant, que Churchill parlait dans un français fantaisiste, avec un cigare coincé entre les dents, et qu'il y avait au moins 30 centimètres entre la bouche du Premier ministre et l'oreille du général. Mais ce Churchill étant justement un romantique, il a sans doute effectivement vu devant lui le modèle du héros de légende, celui qui reste impassible, au milieu de la panique générale. il faut dire que Churchill a souvent pris ses désirs pour des réalités, et il faut bien avouer que les réalités se sont toujours inclinées très bas pour exaucer les désirs de Winston Churchill, hein, pendant près d'un siècle. Alors, en l'occurrence, Churchill a besoin d'un homme qui puisse pousser le gouvernement français à poursuivre la lutte, et de Gaulle lui paraît tout désigné pour jouer ce genre de rôle. Ce qui fait qu'entre les deux hommes, il y a d'emblée une certaine communauté d'intérêts. Seulement, évidemment, à cette époque-là, Churchill a surestimé l'influence d'un sous-secrétaire d'État à la guerre français, hein, parce que Paul Reynaud est entouré de défaitistes beaucoup plus influents que de Gaulle, hein, comme Baudouin, comme Chautant, comme le président Lebrun, vous savez, celui à qui deux choses seulement avaient manqué, comme homme d'État, qu'il fût un homme et qu'il y eût un État, voilà, bon. Il y a aussi les militaires, évidemment, le général Weygand, le maréchal Pétain, tous ces gens-là sont les mauvais conseillers de Paul Reynaud, sans oublier, bien sûr, la maîtresse en titre de Paul Reynaud, Madame de Porte, hein, qui est une sorte de Julie Gayet en un peu plus arrondi et en beaucoup moins agréable. Hein, voilà. Et malgré cela, Dans l'après-midi du 16 juin, en désespoir de cause, de Gaulle et Churchill parrainent ensemble un projet d'union franco-britannique qui est d'ailleurs proposé par Jean Monnet. Et de Gaulle et Churchill n'y croient pas, ils y croient pas plus l'un que l'autre, hein, il faut être juste, mais ils y voient tous les deux un moyen de maintenir la France dans la guerre, en dissuadant le gouvernement français de céder aux sirènes du défaitisme. Alors, on sait que ce sera tout à fait insuffisant, et le 17 juin, après la démission de Paul Reynaud et son remplacement par Pétain, de Gaulle s'envole pour l'Angleterre. Alors, il a décidé de continuer le combat, d'abord par réflexe instinctif, hein, il se souvient du maréchal Foch qui disait les vaincus ce sont ceux qui reconnaissent la défaite, voilà, donc lui il la reconnaît pas, donc il n'est pas vaincu. Mais s'il s'en va, c'est aussi, s'il va en Angleterre, c'est parce qu'il a évalué la capacité de résistance des Britanniques en général, et celle de leur premier ministre en particulier. Hein, souvenez-vous de ce passage de ses mémoires. « Il m'a paru que la Grande-Bretagne, conduite par un pareil lutteur, ne fléchirait certainement pas. » Ben oui, parce que si Chamberlain était resté premier ministre en Angleterre au mois de juin, il est infiniment probable, il est même certain que le général de Gaulle ne se serait pas attardé en Angleterre. Il aurait été directement au Canada, hein, ce qu'il a reconnu par la suite. En tout cas, de Gaulle ajoute ceci dans ses mémoires. Naufragé de la désolation sur les rives de l'Angleterre, qu'aurais-je pu faire sans le concours de Churchill ? Il me le donna tout de suite. Alors Churchill a de très bonnes raisons de le lui donner, parce que, bien sûr, de Gaulle n'a plus la moindre prise sur les événements en France, il va même être accusé de désertion. Et il ne compte même pas parmi les politiciens français reconnus. Mais il peut encore rendre de grands services à l'Angleterre, parce qu'il faut bien voir comment ça se passe à ce moment-là. Churchill prévoit le choc que va provoquer sur l'opinion publique anglaise la capitulation de la France, parce qu'on est toujours tenté, évidemment, de mesurer les choses à l'aune de ce qui s'est passé précédemment. Et ce qui s'est passé précédemment, c'était la Grande Guerre. Et pendant la Grande Guerre, si l'Angleterre n'a pas été envahie, c'est parce que la France a tenu. Hein? Et voilà que cette fois-ci, ça se passe différemment. Hein. En moins de 5 semaines, le rempart de la Grande-Bretagne sur le continent s'écroule d'un seul coup. Et donc l'Angleterre est directement menacée. Et bien sûr, le peuple anglais, tout comme le peuple français, risquerait de suivre les défaitistes qui voudraient négocier avec Hitler. Bon, ben notre rempart s'est écroulé, ben il faut négocier, il n'y a rien d'autre à faire, évidemment. Et c'est pour cela que Churchill, qui est un propagandiste de génie, hein, il va imposer une fiction en présentant au peuple ce général hein, qui a une stature, qui a une volonté, qui a une réputation, qui a un idéal, qui a une voix, qui a un nom, hein, qui est un programme à lui tout seul, De Gaulle, ça claque quand même, hein, évidemment. Et donc, Churchill le présente aux communes, hein, il annonce aux députés que voilà, vous croyez que la France a disparu? Eh bien non, la France n'a pas disparu. Elle continue la guerre aux côtés de la Grande-Bretagne en la personne de ce général de Gaulle. Hein. A fine fighting soldier with a good reputation and a strong personality. Alors évidemment, pour ce qui est de la strong personality, il aura l'occasion de la regretter plus d'une fois pendant la guerre, mais on ne va pas anticiper. Pour le moment, Churchill ne fait pas les choses à moitié et il va effectivement donner à ce général solitaire, parce qu'il faut reconnaître qu'il arrive pratiquement tout seul, Churchill va lui donner tous les moyens de s'imposer, d'abord en lui ouvrant l'accès à la BBC, comme vous savez, en le reconnaissant personnellement comme chef de tous les Français libres, en sommant ses ministres et ses chefs militaires qui sont très réticents, de lui apporter toute l'aide matérielle nécessaire, en le faisant filmer avec le roi et la reine, ça c'est une garantie hein, pour le peuple anglais, quelqu'un qui est filmé avec le roi et la reine ne peut pas être vraiment mauvais, et même en engageant un agent de publicité, un certain Richmond Temple, qui a la mission suivante, faire connaître le nom du général de Gaulle dans le monde entier et surtout en Grande-Bretagne et dans l'Empire britannique. Alors de Gaulle n'apprécie pas vraiment la publicité de ce genre, il trouve que c'est vulgaire. Hein. Churchill veut me lancer comme une savonnette. Mais malgré tout, il est bien conscient des efforts que fait Churchill en sa faveur. Hein. Il l'écrira. Cet exceptionnel artiste était certainement sensible au caractère de ma dramatique entreprise. Voilà, ça fait partie justement des films publicitaires. Hein. C'est tout à fait ça. Des films, et un extrait de film d'ailleurs. Il est vrai qu'au cours de l'été 1940, De Gaulle est très fréquemment reçu au Chequers et à Downing Street. Et à cette occasion, les deux hommes peuvent constater qu'ils ont énormément de choses en commun. D'abord, une vaste, très vaste culture, une vision extrêmement longue de l'histoire, pour le passé comme pour l'avenir. Une maîtrise exceptionnelle de leur langue, une très grande confiance dans leur aptitude à faire bouger les choses, un attachement viscéral à leurs empires respectifs, un rejet catégorique du nazisme et du communisme, et surtout, évidemment, un idéal et un patriotisme en acier trempé, et un courage très exceptionnel au service de cet idéal et de ce patriotisme. Alors, un courage moral, mais aussi un courage physique, puisqu'ils ont tous les deux un mépris souverain du danger et de la mort. Une mort qui leur paraît faire partie intégrante des risques normaux du métier. En revenant de son dernier voyage en France, Churchill dit au général Ismay « De toute façon, vous et moi, nous serons morts dans 2 mois ». Et ça le gêne pas plus que ça, hein. C'est, oui, bah oui, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est de bien mourir au service de la patrie pour qu'on puisse dire que Churchill a bien mérité du roi, du Parlement et de l'Angleterre. De même, De Gaulle, courage physique impressionnant, hein, pendant la campagne militaire à Abbeville, connaissait de très près quelqu'un qui s'appelait Jean Lebeau et qui faisait partie d'un peloton d'automitrailleuses de reconnaissance. Et il nous avait dit, oh oui, De Gaulle, on ne l'aimait pas du tout parce qu'il nous envoyait dans tous les endroits où ça chauffait le plus. Mais en même temps, on l'admirait parce qu'il insistait toujours pour venir avec nous. Et donc, vous voyez un petit peu de quel bois ces gens sont faits. En tout cas, ce partenariat de Churchill et de Gaulle va même résister à des événements aussi graves que le bombardement de Merzel-Kébir au début de juillet et l'échec de Dakar à la fin de septembre. Et justement, après Dakar, le 8 octobre, Churchill déclare aux communes ceci: Our opinion of De Gaulle has been enhanced by everything we have seen of his conduct in circumstances of peculiar and perplexing difficulty. Oui, il avait un petit défaut de prononciation. Le comportement du général De Gaulle dans ces circonstances aussi extraordinairement difficiles et déroutantes, n'a fait qu'accroître la considération que nous lui portions. Et du coup, les critiques de De Gaulle en Angleterre se taisent, parce qu'on n'ose pas affronter le Premier ministre à ce stade, évidemment. Et donc, c'est un partenariat tout à fait efficace. Et il est vrai que l'action ultérieure de De Gaulle aura le même effet sur Churchill, hein. Grâce à Leclerc, grâce à Delarmina, grâce au gouverneur général Éboué, De Gaulle rallie une bonne partie de l'Afrique équatoriale à la cause alliée, hein, à l'automne de 1940. Et Churchill, après avoir entendu le discours de Brazzaville, 27 octobre 40, vous savez, celui qui annonce la création du Conseil de défense de l'Empire, Churchill doit bien admettre que le général de Gaulle est, je cite, « très différent d'un militaire ordinaire ». Et ça, évidemment, c'est tout de même un compliment de taille dans la bouche de Churchill, qui a l'habitude de dire « military intelligence is a contradiction in terms ». Les anglicistes apprécieront. Alors, bien sûr, ce n'est pas seulement une question de sentiment ou d'admiration. Hein. Churchill sait bien que dans l'immédiat, la reconquête de l'Europe ne peut pas se faire directement et qu'il faudra bien qu'elle passe par l'Afrique. Et il compte sur De Gaulle pour lui donner les clés de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique occidentale et surtout de l'Afrique du Nord française. Alors, si on considère cette communauté d'intérêts et ce partenariat exemplaire, comment est-ce qu'on peut expliquer les orages qui vont assombrir dès 1941, les relations entre le Premier ministre de Sa Majesté et le chef des Français libres? Évidemment, le tempérament particulier des deux hommes y est déjà pour quelque chose, hein. Churchill, dont le caractère autoritaire est célèbre, s'attend naturellement à ce que la France libre s'incline devant ses décisions politiques et stratégiques, exactement comme les 9 autres chefs d'État et dirigeants des gouvernements en exil, hein, qui dépendent entièrement du bon vouloir des Anglais pour leur subsistance, pour leur armement, pour leur transport, etc., etc. Et évidemment, Churchill le dit lui-même, hein,
All I ask for is compliance with my wishes after reasonable discussion.
Tout ce que je demande, c'est qu'on se plie à ma volonté après un temps de discussion raisonnable. Vous voyez, il ne demande pas grand-chose, il ne demande que ça. Hein? Seulement, il se trouve que De Gaulle supporte très mal la soumission, vu qu'il se considère comme le seul garant des intérêts de la France. Et c'est justement cette dépendance totale à l'égard de l'allié britannique qui le rend parfaitement insupportable. Hein. Au grand ébahissement de Churchill, De Gaulle n'arrête pas de répéter ceci. « Nous sommes trop faibles pour faire des concessions. » Bah oui, normalement, c'est justement quand on est faible qu'on fait des concessions. Mais non, le tempérament de De Gaulle, c'est le contraire. Hein. Quand on est faible, c'est justement là qu'on doit se montrer impitoyable. Et puis il y a aussi ceci qui vous résume aussi le caractère du général. « Je n'ai de respect que pour ceux qui me tiennent tête. Le drame, voyez-vous, c'est que je ne les supporte pas. » Ben oui, mais évidemment, quand vous avez des personnages pareils, il y a des tas de choses par la suite qui ne vont pas vous étonner. D'autant qu'il y a d'autres choses. Il y a les tractations indirectes et secrètes de Churchill avec Vichy. Vous savez, la fameuse mission Rougier qui n'aboutit à rien, mais enfin qui fait un petit peu de bruit. Et puis, il y a les immixtions de Churchill dans les affaires internes de la France libre, hein, qui déboucheront même sur l'arrestation de l'amiral Muselier à la fin de 1940. C'était une erreur, mais ça éveille les soupçons toujours latents, et voilà, l'amiral Muselier, du général de Gaulle, hein, à l'égard de la perfide Albion. Hein, déjà, c'est héréditaire et congénital. Hein, vous savez, c'est son père, Henri de Gaulle, qui disait déjà à l'époque, la perfide Albion, perfide, l'adjectif me paraît à peine suffisant. Vous voyez, donc évidemment, tel père, tel fils, hein, on ne se refait pas. C'est, de ce point de vue-là, c'est un sort assez. un sort quand même un petit peu facétieux qui a envoyé De Gaulle, hein, en Angleterre, évidemment. Si les choses avaient dû se faire comme il voulait, c'est pas en Angleterre qu'il s'est arrivé, mais enfin bon. Et puis, il y a effectivement, on est entre nous, on peut le dire, il y a une certaine paranoïa vis-à-vis des Anglais. Hein. Je vais vous donner un exemple. De Gaulle se confie à un général américain qui s'appelle Vernon Walters, et il lui dit ceci, les Anglais ont fait exprès de me donner des bureaux à Carlton Gardens parce que c'est dans une impasse et que pour y entrer et pour en sortir, il faut passer par Waterloo Place. Et le général Walters, un peu stupéfait, écrit dans ses notes « Je doute que les Anglais y aient pensé une seule seconde ». Et évidemment, c'est Walters qui a raison. Les Anglais n'avaient bien d'autres choses à faire que d'humilier le général de Gaulle. Hein. On le verra dans de nombreuses fois. Mais il y a une certaine paranoïa. Et évidemment, il se trouve que les Anglais, volontairement ou pas, et généralement plutôt involontairement, vont faire beaucoup pour renforcer la paranoïa patriotique du général. Et notamment au moment de la reconquête de la Syrie sur Vichy à l'été de 1941. Vous voyez, en particulier le malheureux armistice de Saint-Jean d'Acre du mois de juillet. Parce que cet armistice donne tout de même à l'armée britannique la maîtrise du Levant français, enfin mandat français, et en même temps cet armistice fait à Vichy des concessions exorbitantes, hein, en négligeant très largement les intérêts de la France libre. C'est d'ailleurs ce qui amène le général à prononcer quelques paroles vengeresses devant un journaliste américain, George Weller, du Chicago Tribune, à Brazzaville, en août 1941. Je cite, « L'Angleterre a conclu avec Hitler une sorte de marché pour la durée de la guerre dans lequel Vichy sert d'intermédiaire. Tout comme l'Allemagne, l'Angleterre exploite Vichy, la seule différence est dans le but poursuivi. Ah, évidemment, ce sont quand même des boulets d'assez gros calibre que de Gaulle tire là sur son allié britannique. Et ses paroles sont immédiatement reproduites dans toute la presse anglaise et américaine. Et à Londres, ça suscite évidemment une tempête d'indignation. Et Churchill, qui est notoirement cyclotimique, en est absolument scandalisé. Bon, il a bien reconnu que cet armistice de Saint-Jean d'Acre était absurde, mais ça, il a tout de suite oublié en voyant la réaction du général de Gaulle. Et donc, il est tellement scandalisé qu'il va y avoir quelques entrevues extrêmement agitées entre les deux hommes, notamment en septembre 41 et à l'automne de 1942. Et ça donnera quelques échanges de ce genre. Churchill...
« Général, je vous dénoncerai aux communes et à la radio. »
De Gaulle... « Monsieur le Premier ministre, vous êtes libre de vous déshonorer. » Churchill...
« Général, si vous m'obstaclerez, je vous liquiderai. »
Et dans l'intervalle, l'incident le plus insignifiant au Levant entre Français et Britanniques, le harcèlement de curés de Vichy par des curés de la France libre ou vice-versa, des trucs complètement ridicules, eh bien, ça va être démesurément amplifié quand ça arrive à Downing Street. Hein, ça donne
« Yet another detestable instance of anglophobia by this most hostile man ».
Et quand ça arrive à Carlton Gardens, eh bien, ça donne ceci « Une violation flagrante de la souveraineté française, une insulte à la France et un nouveau fachoda ». Alors, fachoda, c'est un truc fabuleux parce que De Gaulle était obsédé par fachoda, un incident totalement secondaire, mineur au Soudan anglo-égyptien en 1898, que les Anglais avaient complètement oublié, et à chaque fois que De Gaulle leur ressortait fachoda, ça créait une panique, y compris au Foreign Office, parce que même au Foreign Office, ils avaient complètement oublié fachoda, donc ils envoyaient des petits commis pour rechercher ce que c'était que fachoda, donc ça faisait une panique noire. Et donc, vous avez une atmosphère là-dedans de représailles, de contre-représailles, de rétorsions, de chantage. De Gaulle se met à rudoyer les fonctionnaires britanniques subalternes. Il va au Tchad, par exemple, il dit au gouverneur « Vous avez des Anglais ici ?»« Oui, mon général. Combien ?» 12, mon général, c'est trop, renvoyez-les, etc. Bon, voyez un petit peu l'atmosphère. Hein. De Gaulle, quand il présente des fonctionnaires britanniques, il s'enveloppe de glace, comme il dit. Hein, voilà. Et non seulement il fait expulser les fonctionnaires anglais des territoires africains qu'il contrôle, mais il soumet les autres au régime de la douche écossaise. Vous vous rendez compte, les Anglais soumis au régime de la douche écossaise, ils n'ont pas l'habitude. Hein. Et puis De Gaulle laisse entendre qu'il pourrait quitter Londres pour Moscou, ce qui crée un nouveau début de panique à Londres, évidemment. Et puis quant à Churchill, alors lui aussi, il a ses rétorsions. Hein. Il ordonne de faire tomber en panne les navires et les avions qui transportent des armes et des agents en France, hein, pour la résistance, et il menace même de couper les vivres au général. Il fait annuler ses déplacements à l'étranger, d'ailleurs, ce qui donne assez rapidement ceci. De Gaulle à Churchill, « Enfin, je suis prisonnier, bientôt vous m'enverrez à l'île de Man. » Réponse de Churchill, « Non, mon général, pour vous, très distingué, toujours la Tower of London. » Ouais, un petit peu, vous voyez l'ambiance. Bon, ça va pas beaucoup plus loin, hein, mais ce qui va compromettre bien davantage les relations entre les deux hommes, c'est l'entrée en guerre des États-Unis à la fin de 1941. Parce que il faut savoir que le président Roosevelt a perdu depuis juin 40 son respect pour les Français en général et pour les généraux français en particulier. sans compter qu'il souffre en plus d'une grave maladie qui donne des crises de gaulophobie aiguë. Et il considère De Gaulle comme un apprenti dictateur, il le méprise depuis l'échec de Dakar et il le déteste depuis le succès de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et il est conforté dans ses mauvaises dispositions par son secrétaire d'État, Cordell Hull, que voici, et par son ambassadeur à Vichy, l'amiral Leahy. Alors, il faut vous dire, l'amiral Leahy, c'est un ami personnel de Roosevelt depuis le début de la guerre précédente, de la Grande Guerre. Et il a estimé qu'un amiral comme ambassadeur, ça serait bien pour s'entendre avec les amiraux de Vichy. Seulement, Leahy va s'apercevoir assez rapidement que Vichy est assez loin de la mer. Et comme en plus, il ne parle pas français, ses rapports à Washington peuvent donner des résultats assez surprenants. Comme l'extrait suivant... Il y a bien dans l'allié des groupes qui se nomment gaullistes, mais ça n'a pas de rapport avec De Gaulle, c'est en référence à l'ancienne France qui, paraît-il, se nommait la Gaule. Vous voyez, il avait des tuyaux un petit peu, voilà. Alors, bon, évidemment, avec des rapports comme ça, on ne peut pas aller très loin, d'autant qu'il y a aussi l'influence sur Roosevelt de plusieurs politiciens et intellectuels français anti-gaullistes réfugiés aux États-Unis, comme Alexis Léger, vous savez, le fameux St. John Perse, qui a des griefs personnels un peu ridicules contre De Gaulle, mais enfin, il est très actif. Puis il y a aussi le comte de Chambrun, qui est le gendre de Laval, et à ce titre d'une objectivité forcément assez relative. Il faut bien reconnaître que De Gaulle que Roosevelt est très influençable par les gens qui lui disent ce qu'il veut entendre. Et il va encourager très vivement Churchill à rompre avec De Gaulle. Or, Churchill lui-même est très vulnérable aux pressions de la Maison-Blanche parce qu'il a absolument besoin, évidemment, de l'aide de Roosevelt pour gagner la guerre. Il faut voir l'état de dénuement de l'Angleterre à l'époque. Et aussi parce qu'il rêve d'influencer l'ensemble de la stratégie américaine, hein, depuis la Méditerranée jusqu'à l'océan Indien. Il rêve d'un partenariat dans lequel Roosevelt fournirait les moyens et lui, Churchill, fournirait le génie stratégique, qu'il n'a pas d'ailleurs, mais qu'il croit avoir. Et par conséquent, Churchill est tout à fait disposé à faire au président de très amples concessions au détriment d'alliés mineurs. D'alliés mineurs comme les Français libres. Des Français libres qui vont donc être exclus des opérations de reconquête, notamment de Madagascar et de l'Afrique du Nord. Et par conséquent, les rapports entre Churchill et De Gaulle vont se tendre encore davantage en conséquence. Hein. Par exemple, Churchill accuse De Gaulle d'intransigeance et d'anglophobie. De Gaulle reproche à Churchill sa subordination à Washington et sa duplicité. Le whisky amortit son sens moral. Ouais, bah, oui, évidemment. Et on arrive même au bord de la rupture en mai 1943, quand Churchill, aux États-Unis, visiblement sous l'influence de Roosevelt, télégraphie de Washington aux membres de son gouvernement qui sont restés à Londres. Et sur le télégramme, il est écrit ceci. « Je demande à mes collègues d'examiner d'urgence la question de savoir si nous ne devrions pas éliminer dès maintenant De Gaulle en tant que force politique. » Vous voyez, c'est quand même du gros calibre. Seulement voilà, son gouvernement lui répond, pratiquement par retour du courrier, et lui répond par un refus catégorique pour une bonne douzaine de raisons, auxquelles ajoute Anthony Eden, les Américains n'ont pas même commencé à penser, voilà, donc, hein, et Churchill va devoir s'incliner, ce qui l'empêche pas de ressasser ses innombrables griefs pendant les semaines qui suivent, hein, et De Gaulle, voilà, il donne là, le bel homme à côté de Churchill. Vu par Churchill, De Gaulle est un ingrat, c'est un apprenti dictateur, un anglophobe, il s'intéresse qu'à la France et pas du tout à la stratégie globale de la guerre, ni à tous les autres problèmes qui monopolisent l'énergie de Churchill, par exemple l'appétit de Staline qui exige un second front et une expansion pratiquement illimitée en Europe de l'Est après la guerre. Et puis, il a d'autres problèmes, Churchill, hein. Il a les projets décolonisateurs de Roosevelt qui menacent l'Empire britannique. Et puis, il y a la stratégie trop téméraire des chefs d'état-major américains en Europe, hein. Ils veulent débarquer en France dès 1942. C'est quand même assez suicidaire. D'autant qu'ils n'ont que deux divisions à y mettre, hein. Et puis, il y a leur tentation permanente de se détourner de l'Europe parce que ça va pas assez vite. Donc, pour se concentrer sur le Pacifique, et Churchill, à chaque fois, doit mobiliser chef d'état-major pour essayer de leur faire entendre raison. Et puis, il y a d'autres problèmes. Il y a le bombardement de l'Allemagne, il y a la bataille de l'Atlantique, il y a la guerre de Méditerranée, depuis Malte jusqu'à Alexandrie, en passant par la Sicile. Bref, tous ces soucis quotidiens que De Gaulle ne partage pas, puisqu'il est obnubilé par le sort de la France. Alors ça, c'est évidemment la vision churchillienne, hein, c'est pas la mienne. Moi, je suis un simple porte-parole, et d'ailleurs, j'arrête pas de changer de camp, comme vous verrez. Mais il y a encore plus important. Si les tactiques gaulliennes d'ultimatum et de représailles créent un effroi certain à Downing Street, c'est surtout parce que les Anglais redoutent la contagion parmi les 9 autres gouvernements en exil à Londres et à Alexandrie. Eh bien oui, vous savez, dans les archives de guerre norvégiennes à Oslo, on trouve un rapport très édifiant du ministre des Affaires étrangères norvégien de l'époque, qui s'appelle Trygve Lie, qui envoie un rapport à son roi, le roi Håkon VII. Et on apprend ceci, Trygve Lie avait décidé d'adopter une tactique gaullienne. C'était très à la mode à Londres à l'époque. Et sa tactique consistait à aller dire à son homologue britannique, Anthony Eden, que faute d'obtenir satisfaction sur la question d'une liaison aérienne régulière entre Londres et Stockholm, une question vitale pour la résistance norvégienne, eh bien, si les Norvégiens n'obtenaient pas, ça traînait depuis 2 ans, hein, et si les Norvégiens n'obtenaient pas satisfaction, eh bien, la Norvège retirerait du service d'approvisionnement de la Grande-Bretagne l'ensemble de ses 1000 navires de transport, dont 500 tankers ultramodernes. Et c'est un chantage de type typiquement gaullien, ça. Et Trygve Lie rapporte dans son rapport, justement, qu'à sa grande surprise, Anthony Eden, qui était d'ordinaire si courtois et si flegmatique, eh bien, cette fois, il était entré dans une rage folle et il l'avait pratiquement jeté dehors. Et la conclusion du rapport était que, finalement, seul De Gaulle pouvait utiliser avec succès des tactiques gaulliennes, mais que lui, Trygve Lie, ne savait pas pourquoi. Et pourtant, avec le recul, la réponse est évidente. Le plus terrible cauchemar du ministre des Affaires étrangères Eden, tout comme celui de Churchill, c'était de voir les chefs d'État de tous les 10 gouvernements en exil arpenter Londres avec le nez en l'air en présentant des ultimatums, en faisant des chantages, en exerçant des représailles pour tenter de peser sur la stratégie ou la diplomatie des guerres britanniques. Et là, évidemment, ça aurait été la fin de tout. Et comme disait Anthony Eden, il n'y aurait plus qu'à se faire enfermer dans un asile d'aliénés en attendant la fin de la guerre. En tout cas, à la fin de mai 43, au moment de partir pour Alger, De Gaulle va prendre congé d'Anthony Eden Et Eden lui dit en souriant, « Savez-vous, général, que vous nous avez causé davantage de difficultés que tous nos alliés d'Europe réunis ?» Et à quoi de Gaulle répond, en souriant aussi, « Je n'en doute pas, la France est une grande nation !» Et c'est là qu'on voit que pour le général, la grandeur d'un pays se mesurait à sa capacité d'empoisonner ses alliés. Alors, effectivement, si vous regardez de l'autre côté du miroir, et si vous regardez maintenant les choses du point de vue du général de Gaulle, vous voyez évidemment justement cet envers du miroir que Churchill ne perçoit pas toujours très clairement. D'abord, vous voyez un De Gaulle qui peste constamment contre Roosevelt et Churchill, qui l'appelle « ses stratèges amateurs », évidemment. Ben oui, parce que, après tout, De Gaulle, il a une formation d'état-major, et Churchill n'en a aucune, et Roosevelt non plus. Mais non seulement on lui demande pas de conseils à De Gaulle, qui pourtant passe des nuits entières à élaborer des plans pour le cas où il demanderait son avis sur la stratégie à suivre. Après tout, il a des avis autorisés, il a de très bonnes idées, et puis il est de bons renseignements, et surtout il a effectivement une vision stratégique que Churchill n'a pas, et Roosevelt encore moins, évidemment. Mais non seulement on lui demande pas son avis, mais en plus on lui, non seulement on lui demande rien, mais en plus on lui cache tout. Par exemple, le débarquement en Afrique du Nord, qui se fait à son insu, en négligeant la Tunisie, ce qui leur coûte d'ailleurs 6 mois de campagne supplémentaire. Si De Gaulle avait été consulté, la première chose qu'il aurait dite, c'est « Laissez-nous débarquer en Tunisie, ça aurait marché d'un seul coup ». Eh bien, ils ne l'ont pas fait, les Allemands ont accouru, et ça a fait 6 mois de campagne supplémentaire. Donc c'était idiot. Par ailleurs, De Gaulle voit bien que les Anglais envoient des agents du SOE, de l'OSS en France, et que là-bas, ils sèment le désordre et la confusion au sein de la résistance. Là, c'est bien sûr le général qui parle, c'est pas moi, parce que c'est un petit peu exagéré, mais enfin, ils font aussi des très bonnes choses. Mais enfin, bon, vu de De Gaulle, l'introduction d'agents britanniques en France, c'est encore une insulte à la souveraineté de la France, et un nouveau fachoda, bien entendu. Et donc, voilà, il est scandalisé. Et puis enfin, vu par De Gaulle, ces anglo-saxons, et là, c'est pas de la paranoïa, ils mijotent une occupation du territoire français au moment de la libération. Et cette occupation anglo-saxonne, évidemment, ça risque de déboucher sur la guerre civile avec les communistes, exactement comme cet autre travail d'amateur de la part de Churchill qui consiste à armer les communistes de Tito en abandonnant les royalistes de Mihailovic en Yougoslavie, alors qu'au même moment, ils soutiennent en Grèce les royalistes de Georges II contre les communistes de l'OAM. Donc tout ça, c'est une politique de gribouille, évidemment, c'est vrai. Alors ça, ce sont les billets émis aux États-Unis que Roosevelt s'apprête à utiliser en France. Mais ça aussi, c'est une insulte à la France, évidemment, parce que le pouvoir de battre monnaie, depuis Philippe le Bel, ça appartient au roi de France. Et donc là, en l'occurrence, il n'y en a plus qu'un, le roi de France. Et donc, voilà, on ne peut pas admettre ça. D'ailleurs, il appelle ça de la fausse monnaie, évidemment. Bon. Et puis, ajouter à ça, évidemment, que De Gaulle soupçonne Churchill et Roosevelt d'intriguer avec ses nombreux adversaires, depuis Muselier jusqu'à Giraud, en passant par le général Georges, et puis aussi de vouloir s'approprier toutes les colonies françaises, à la faveur de la guerre. Et là, il se trompe, du moins en ce qui concerne Churchill. Parce que, à la différence de Roosevelt, Churchill veut au contraire que les Français conservent leurs colonies, surtout au Moyen-Orient, parce qu'il craint qu'une fois les Français partis, eh bien le nationalisme arabe se retourne contre les Anglais. Donc évidemment, c'est un petit peu machiavélique, mais enfin, voilà, c'est une chose que De Gaulle ne comprendra jamais, et pourtant c'est vrai. Et puis enfin, une dernière chose que Churchill ne saura jamais, De Gaulle a contracté la malaria en Afrique. Il n'y a que son docteur et sa famille et son aide de camp qui sont au courant. Mais évidemment, quand on porte bout de bras la France libre dans des conditions aussi dramatiques, au milieu d'une guerre mondiale, le paludisme, ça ne rend pas plus aimable, hein, surtout quand on a déjà un caractère difficile. Hein, souvenez-vous, nous sommes un gouvernement qui a mauvais caractère. Bon, c'est pas le gouvernement qui a mauvais caractère, hein, c'est lui, évidemment. D'ailleurs, il n'en a pas de gouvernement, et c'est justement ce qui le rend insupportable. Hein, voyez, on tourne un peu un rond. Et malgré cela, n'en déplaise au président Roosevelt, il n'y aura jamais de rupture entre le chef de la France libre et le premier ministre de Sa Majesté, et cela pour une bonne demi-douzaine de raisons. D'abord, ces deux hommes, au caractère, disons, intransigeant et au patriotisme, on va dire, envahissant, ce ne sont pas des dictateurs. Ils sont entourés de ce que j'ai appelé quelque part des amortisseurs. Les amortisseurs, ce sont des hommes... On en a vu un tout à l'heure, c'est le général Catroux. Les amortisseurs, ce sont des hommes moins inspirés et plus timorés, mais voilà encore un amortisseur, là, c'est Massigli. Des hommes qui sont moins véhément, plus pondéré, plus conciliant, et évidemment, moins énergique aussi, évidemment, hein, mais qui sont capables d'arrondir les angles et de renouer les relations quand elles sont au bord de la rupture. Churchill et De Gaulle, ce sont des Maserati avec des freins de deux chevaux. Donc ça peut être totalement catastrophique, évidemment. Et s'il n'y avait pas eu ces fameux amortisseurs supplémentaires, eh bien la rupture aurait été pratiquement inévitable. Hein. Alors, vous me direz, De Gaulle et Churchill n'en parlent pas dans leur mémoire. Mais ça, c'est parce que c'est un trait particulier des grands hommes qui répugnent souvent à reconnaître ce qu'ils doivent aux petites mains. Mais nous, on peut le faire à leur place. Hein. Ces petites mains, il y a principalement Catroux, Dejean, Massigli, celui qu'on vient de voir, Catroux, celui-là, hein, et puis à sa gauche, André Philippe, à sa droite, la droite de Catroux, André Philippe, là, oui, et puis à Freinet, celui-là, là, et puis à Pleven, et puis à Viennot, et puis à Passy, puis à Cassin, et plus tard, Georges Bidault, évidemment. Et puis Pierre Viennot, alors là, le malheureux, on lui doit beaucoup aussi. À celui-là, c'était l'ambassadeur. Et il en est mort, d'ailleurs. Il a été tellement engueulé par De Gaulle et par Churchill qu'il a eu une crise cardiaque. Il n'a pas survécu. Il n'a pas survécu à la guerre, le malheureux Pierre Viennot. Et du côté britannique, vous avez Eden, vous avez Attlee, vous avez Bevin, et vous avez Macmillan, qui... De Gaulle doit beaucoup, presque autant qu'à Eden, et Charles Peake, le diplomate, et Duff Cooper, et le major Morton, et même le roi, George VI en personne, hein, des premiers gaulliens d'Angleterre, hein, premier gaulliste. Hein, par exemple, le 9 février 1943, le roi George VI écrit dans son journal, c'est au lendemain de la conférence d'Anfa, « J'ai conseillé à Winston de se montrer patient avec De Gaulle, je lui ai dit que je comprenais l'attitude du général qui est hostile à l'idée de se lier avec des Français qui ont collaboré avec les Allemands. » Bien sûr, c'est Darlan. Or, le monarque, pour Churchill, c'est Dieu le Père. Hein, et quand il intervient, il éclipse très largement Roosevelt. D'autant que de Gaulle jouit d'un très grand prestige auprès de l'opinion publique britannique, notamment à cause du fameux publicitaire dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui devait faire connaître de Gaulle dans l'opinion publique. Ben oui, il a réussi au-delà de toute espérance. Et puis de Gaulle jouit aussi d'un soutien croissant au sein de la Chambre des communes. Et là, la Chambre des communes, c'est l'autre dieu de Winston Churchill, évidemment. Et puis il a le soutien de la presse anglaise. Et puis il a le soutien général de tous les gouvernements en exil à Londres et à Alexandrie. Et des gouvernements qui craignent, après l'affaire d'Arlan, de voir les anglo-américains s'entendre aussi un jour avec les collaborateurs notoires de leur propre pays, comme Nedić en Yougoslavie, ou Moussert en Hollande, ou De Grelle en Belgique, et autres Quisling en Norvège. Et puis, dernière chose qui est quand même la plus importante, dès la mi-mai 1943, Jean Moulin a fait connaître le soutien du Conseil national de la résistance au général de Gaulle. Si bien que rompre avec de Gaulle à ce stade, ça équivaudrait à rompre avec la France, une éventualité qui est totalement impensable pour le vieux francophile de Downing Street. Puis il faut bien reconnaître que pour éclipser de Gaulle, Roosevelt et Churchill ont déjà tenté de miser successivement sur Weygand, sur Muselier, sur Darlan, sur Giraud, sur Georges, sur Noguet, sur Perrouton, sur Boisson, sur Flandin, sur Herriot. Et tous ces hommes se sont révélés comme des poids-plumes, parfaitement incapables de supplanter le général de Gaulle. Et à Alger, dès l'automne de 1943, Giraud lui-même est écarté de la direction du CFLN, ce qui laisse de Gaulle seul maître de la France combattante. Et Churchill, écœuré, déclare en Conseil des ministres, « Enfin, c'est moi qui ai fait de Gaulle, je peux le destituer. » Et je peux le défaire. » Et Eden lui répond, « Non, monsieur le Premier ministre, vous avez fait de Gaulle, mais vous ne pouvez plus le défaire. » Alors, bien sûr, de Gaulle, à ce stade, en est parfaitement conscient, et il en joue, d'où sa constatation modeste et désabusée, « Il n'y a que de Gaulle !» Et aussi ce jugement qui est très perspicace. Churchill me considère comme un meuble bien encombrant auquel il se heurte de temps en temps, mais qui fait maintenant partie du décor et qu'on ne peut plus déménager. Naturellement. Mais en fait, la dernière raison pour laquelle il n'y aura jamais de rupture entre les deux hommes, c'est sans doute la plus curieuse, mais ce n'est pas la moins importante. Parce que, quelle que soit la violence de ces diatribes contre de Gaulle, Churchill ne peut pas s'empêcher d'admirer cet homme solitaire et démuni qui se comporte avec l'assurance d'un Staline. « With 200 divisions behind him ». Il est mêlé à l'admiration. Il y a l'envie. Ce de Gaulle, c'est un véritable militaire, un général breveté, et qui s'est bien battu et qui a même chargé les Allemands à la tête de ses chars. Et ça, c'est le rêve secret de Churchill, qu'il faut toujours retenir par les Basques pour l'empêcher d'aller affronter Rommel dans le désert. Il avait fait ça pendant la Première Guerre mondiale. Il était parti à Anvers en 14, alors qu'il était premier lord de l'Amirauté. En 15, il est allé se battre dans les tranchées en France. Etc. Donc, oui, l'attrait du danger, c'est cette idée que, de récolter la gloire en tant que général et de battre les ennemis de l'Empire et de Sa Majesté, c'est son rêve secret. Et il peut pas, et de Gaulle peut, d'où l'envie. Et puis quand même, Souvenez-vous, en Normandie, son idée, c'était de débarquer avec les premières vagues. Et là encore, il a fait le retenir par les Basques. Hein. C'est quand même... Voilà. Et donc, il a voulu empêcher De Gaulle d'aller en France parce que lui, il pouvait pas y aller. Enfin bon, mais c'est quand même une psychologie très particulière. Et puis... quand même, ce militaire de Gaulle, qui s'est mué du jour au lendemain en homme politique d'envergure, donc qui a réussi cette synthèse entre le militaire et le politique, ça aussi, Churchill peut pas s'empêcher de l'envier et de l'admirer, évidemment. D'où cette scène au milieu d'une féroce diatribe de Churchill contre De Gaulle dans le fumoir de la Chambre des communes. Il est interrompu par un député qui lui dit « Vous avez sans doute raison, monsieur le Premier ministre, mais qu'importe tout cela, puisque De Gaulle est un grand homme. » Et là, Churchill explose. « Quoi ? Comment ? De Gaulle, un grand homme ? Il est arrogant, il est égoïste, il se prend pour le centre de l'univers, il est... Vous avez raison, c'est un grand homme. » Et au début de 1944, on entendra même Churchill dire de De Gaulle « C'est un grand animal ». Alors De Gaulle l'aurait certainement mal pris, mais... Au vu de l'immense respect de Churchill pour les animaux, n'oubliez pas qu'il se prenait pour un cochon, il n'y avait pas de plus grand compliment que celui-là, hein, même quand il disait qu'il lui rappelait un lama femelle surpris dans son bain. Là encore, De Gaulle n'aurait pas apprécié du tout, mais il aurait eu tort. Hein, ces images animalières, c'était la plus grande expression d'admiration de la part de Churchill. En fait, l'admiration et la considération sont tout à fait réciproques, même à la fin de la guerre. Alors c'est vrai, De Gaulle s'est souvent défoulé devant son entourage, hein, en clamant que Churchill est un gangster. Hein, et sans compter que, comme vous savez, le whisky amortit son sens moral. Oui, mais là aussi, de la part de De Gaulle... Il y a de l'envie, bien sûr. Déjà, ce Churchill qui fume et qui boit sans modération et sans effet visible, ce que De Gaulle ne peut pas se permettre, parce qu'il craint les effets, que ça puisse mettre la France en difficulté. Puis à côté de ça, il y a tante Yvonne qui veille, donc il ne peut pas. Hein? Et puis enfin, ce Churchill... Il a un pays, un gouvernement qui sont rassemblés derrière lui, tout ce que De Gaulle n'a pas. Il a une puissante armée, il traite d'égal à égal avec les États-Unis et l'URSS. Et puis quand même, De Gaulle, qui redoute beaucoup les effets de l'âge, il admire ce farouche lutteur qui est pratiquement septuagénaire avec son courage, avec son énergie, avec sa culture, son éloquence. Et sa capacité d'organisation, qui ont sauvé le monde libre en 40. Seulement voilà, un homme peut avoir des amis, une nation, jamais. Et celui-là, aussi longtemps que dure la guerre, il se considère moins comme un homme que comme une nation. Évidemment, d'où un grand nombre de heurts qui vont se multiplier parce que, évidemment, on n'a pas encore pris l'habitude de considérer que De Gaulle était une nation. Et la veille du débarquement, du fait de l'impossibilité de parvenir à un accord sur l'administration civile en France libérée, principalement parce que Roosevelt y fait obstacle, on verra se jouer un véritable psychodrame entre les deux hommes. Et à la fin de ce psychodrame, Churchill ordonne qu'on mette De Gaulle dans un avion et qu'on le renvoie à Alger, enchaîné si c'est nécessaire. Il ne faut pas le laisser rentrer en France. Hein? Et De Gaulle insulte pratiquement Churchill.
Vous avez trahi la France, allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie, hein, etc. Bon, oui. Seulement, des deux côtés, les amortisseurs familiers vont intervenir, toujours eux. Eden, Pic, Morton, Vienno, Pleven, Massigli se mobilisent. Et aussi le sous-secrétaire d'État, Alexandre Cadogan, qui note ceci dans son journal, c'est lui. « Nous nous éloignons de la politique, de la diplomatie et même du bon sens. C'est du caquetage de pensionnat de jeunes filles. Roosevelt, le Premier ministre et aussi De Gaulle se conduisent comme des jeunes filles à l'approche de la puberté. » C'est pas gentil, hein, pour les jeunes filles. Mais comme je vous le disais, ce psychodrame va faire au moins un mort. Le malheureux Vienno, qui est mobilisé pendant toute la nuit du 5 au 6 juin, hein, qui se fait engueuler vertement des deux côtés, hein, et qui mourra peu après d'une crise cardiaque. Mais bon, de l'autre côté de la Manche, les canons vont mettre tout le monde d'accord, la victoire aussi. Et les diplomates vont s'affairer pendant tout l'été de 44 pour persuader De Gaulle de lancer une invitation à Churchill à l'occasion du 11 novembre, le premier 11 novembre de la libération. Et s'affairer de l'autre côté de la Manche, évidemment, pour persuader Churchill de l'accepter. Churchill ne veut pas. D'ailleurs, De Gaulle ne veut pas lancer l'invitation non plus. « Churchill va me voler mon 11 novembre hein, !» Voilà, donc c'est pas facile. Mais quand les diplomates sont d'accord entre eux, ils peuvent souvent faire des miracles et ils finissent, à force de harcèlement, par les persuader tous les deux. Et quand Churchill arrive finalement dans Paris libéré, le 11 novembre 1944, avec toute sa famille d'ailleurs, on l'entendra dire ceci « Allons, tout de même, il faut suivre De Gaulle, c'est la seule voie !» Alors il faudrait naturellement parler des nouveaux psychodrames qui surgissent dans les premiers mois de 1945, entre les malentendus de Yalta en février et le bombardement de Damas en mai 1945. Seulement, ce sont des sujets qui pourraient faire l'objet d'une conférence à eux tout seuls. Et donc, voilà, il suffit de savoir que ça a existé. En tout cas, une fois la guerre achevée, tout change et l'admiration réciproque va pouvoir se donner libre cours. Hein. Les deux grands hommes qui entrent successivement dans l'opposition, hein, Churchill en août 45 et De Gaulle en janvier 46, eh bien ces deux hommes ont des vues très proches sur la politique à suivre à l'égard de l'Allemagne, de l'URSS et de l'Europe. Et malgré tout, ils n'arrêtent pas de s'étonner mutuellement. En 1947, Churchill, qui est dans l'opposition, mais qui s'inquiète de l'affrontement Est-Ouest et des ambitions des Soviétiques en Europe, voudrait qu'on mette sur pied une sorte d'alliance européenne, l'OTAN n'existe pas encore, pour contenir ces ambitions soviétiques. Et il envoie son gendre Duncan Sands pour sonder De Gaulle à Colombey hein, sur ce qui serait possible de faire entre Français, Britanniques et autres Européens. Et le gendre va à Colombey, s'entretient avec De Gaulle et il rentre en Angleterre et il dit à Churchill « C'est très étonnant, cet homme qui n'est plus rien, qui n'a plus personne autour de lui, qui est boycotté par tout ce qui compte en France, quand je lui ai soumis votre proposition d'alliance, il m'a répondu ceci « Voici quelles sont mes conditions !» Et évidemment, ils sont aussi étonnés l'un que l'autre, hein, Churchill et son gendre. Mais pendant qu'ils sont dans l'opposition, ils rédigent leurs mémoires et ils correspondent pour échanger des renseignements pour la rédaction de ces mémoires, pour avoir des précisions, etc. Et il se trouve que dans ces mémoires,
on les voit porter l'un sur l'autre des jugements qui sont d'une perspicacité étonnante. Hein. Churchill sur De Gaulle, il ressentait les épreuves de la France comme une tragédie personnelle et il avait une aptitude remarquable à ressentir la douleur. C'est très bien vu, ça. Ou bien encore ceci, un caractère épouvantable, mais il était la France à lui tout seul. Et De Gaulle sur Churchill, dans ses propres mémoires, un enfant terrible, mais aussi Churchill, le grand champion d'une grande entreprise et le grand artiste d'une grande histoire. Naturellement. Alors, redevenu Premier ministre, en 1952, Churchill s'inquiète de la décomposition politique en France, surtout à partir deux ans plus tard, à partir du début de la guerre d'Algérie. Et il ne voit qu'un seul homme qui soit capable d'y remédier. D'ailleurs, son épouse, Clémentine, avait parié 500 livres à un général britannique que De Gaulle reviendrait au pouvoir. C'était une somme, 500 livres à l'époque. Hein? Et en mai 58, elle va pouvoir encaisser. Et c'est à ce moment-là que Churchill, dans un élan d'enthousiasme, dit à son médecin « De Gaulle a une occasion unique, il a pris le dessus, ils sont tous soumis à lui, il va pouvoir faire le ménage dans la politique française ». Vous voyez, plus gaulliste que Churchill, on défunte. Alors, dès son accession à la présidence du Conseil, 1958, à l'automne de 1958, De Gaulle prend une mesure longtemps différée. Il décerne à Churchill la croix de la libération, parce que la France ne peut pas être ingrate. Hein, et De Gaulle expliquera au général américain Walters « Je savais combien Churchill aimait les médailles ». Alors, je lui ai décerné l'ordre de la libération. Et je l'ai fait sous l'œil vigilant de Napoléon. Comme il a pleuré, mais quel artiste! Alors évidemment, les éternels insatisfaits, au rang desquels je compte votre serviteur, auraient fait remarquer qu'il aurait pu aussi quand même décorer Anthony Eden, hein, parce que c'était l'amortisseur en chef et il lui devait beaucoup. Mais bon, il l'a pas fait pour les raisons que je vous ai dites avant, les grands hommes n'aiment pas reconnaître ce qu'ils doivent aux petites mains. Alors, quand De Gaulle retourne à Londres pour la première fois depuis la guerre, en avril 1960, il est accueilli par Churchill, qui lui dit, qui est en retraite hein, depuis 5 ans, mais qui lui dit « Vous êtes le bienvenu chez moi, toute ma vie vous serez le bienvenu. » Et De Gaulle, quand il s'adresse aux communes, le 7 avril, dans son discours, il dit ceci « Voyez comme le temps se charge de mettre en relief ce qui compte et d'effacer ce qui importe peu. » Ce qui importe peu, ce sont évidemment les psychodrames du temps de guerre. Les psychodrames dans lesquels il faut toujours faire la part de la volatilité des tempéraments, du bluff, de la comédie, de l'intimidation, en un mot, de l'esbrouf. Parce que, comme me l'avait dit l'amiral Mountbatten en 1979, Both these great men were born actors. C'était tous les deux, ces deux grands hommes étaient tous deux des comédiens nés. Oui, des comédiens nés, c'est vrai, mais des grands comédiens et leur talent de comédien assurait en définitive le salut de leurs pays respectifs, en opposition, mais aussi en association, comme on a pu le voir. Alors au fond, après tout ça, on peut se demander ce que de Gaulle pensait réellement de Churchill. Le seul moyen de le savoir, c'est de lui demander. Churchill, un grand artiste. Mais alors, Churchill, lui, qu'est-ce qu'il pensait vraiment de de Gaulle ? De Gaulle, ah, c'est l'homme de la France. En tout cas, on peut les remercier tous les deux, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de conférence aujourd'hui. Et il n'y aurait peut-être pas eu de France non plus, d'ailleurs. En tout cas, pour l'instant, c'est moi qui vous remercie d'avoir écouté si patiemment, et si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Voilà. Il y en a un là. Il y en a un là. Ouais.
Votre livre traite de quelle période exactement ?
Alors, je les prends presque à la naissance dans un chapitre préliminaire pour voir si Churchill était francophile et si de Gaulle était vraiment anglophobe. Voilà, donc il y a un petit jeu entre les deux. Et puis après, ça commence là où on a commencé ici, c'est-à-dire dans leur première rencontre, et ça finit au décès de Churchill, en fait.
Donc je
l'achèterai. Et même, ça finit même pas au décès de Churchill, parce que tous les ans, pour l'anniversaire de son décès, de Gaulle envoyait une lettre à son épouse, à sa veuve, pour lui dire à quel point il avait admiré son époux. Et donc ça finit, en fait, en 1970. Et celui-là doit marcher, non ?
Non, mais
oui.
La ville était à plat.
Oui. Ah oui, c'est ça.
Bon, des questions. Donc, je vous avais averti pour l'humour. On n'a pas été déçus. Voilà.
Vous avez parlé du SOE et de la résistance intérieure. En Bourgogne, il y a plusieurs maquis qui relèvent du dispositif du SOE. Moi, dans Lyon, où passèrent sans prône Michel Herr, le fils du bibliothécaire de Normal Sud jusqu'en 26, il apparaît, et ça s'explique, y compris au vu de votre conférence, que ces maquis SOE sont plus souvent en collaboration, c'est-à-dire en travail commun avec des maquis FTP, plutôt qu'avec des maquis relevant directement du BCRA. C'est une situation qui peut surprendre, mais elle est bien réelle sur le terrain. Et c'est quand même le terrain qui est la base de la réalité.
C'est très, très mélangé. Les gens du SOE ont pris en gros ce qu'ils ont trouvé, mais ils étaient chargés, y compris par le BCRA d'ailleurs, de former les résistants à l'emploi des armes qui leur étaient livrées. Parce que sinon, il n'y avait personne. C'est très bien d'envoyer des armes, mais si on ne sait pas s'en servir, même une stène, ça part tout seul, ces trucs-là. Hein. Il faut faire très attention, il faut une formation. Qui allait leur donner la formation ? Qui savait se servir d'une stène ou d'une mitraillette américaine à chargeur camembert, la Thompson Sub 45 ? Il fallait une formation. Personne en France savait faire ça. Eux, ils en étaient encore au Lebel. Donc, attendez, et donc c'est le SOE. Et moi, je vous recommande un fabuleux livre d'un certain Bob Maloubier qui s'appelle « Agent secret de Churchill », qui, lui, faisait partie de ces Français envoyés par le SOE pour former. Alors lui, c'était en Normandie d'abord, dans le Limousin ensuite. Il a formé des centaines et des centaines de maquisards à l'usage des armes, y compris des mortiers, d'ailleurs. Là encore, là aussi, ça ne s'improvise pas. Hein, on ne tire pas au mortier comme ça. Et donc le SOE... qui a fait des bêtises, hein, il en a fait, mais la résistance sans le SOE, ils auraient peut-être eu quelques armes, et pas beaucoup, mais surtout, ils n'auraient pas su s'en servir. Et c'est d'ailleurs valable aussi pour les maquis communistes. Hein. On leur envoyait des gens... Il y avait quelques soviétiques qui arrivaient sous couvert d'eux, mais ils ne savaient pas servir des armes britanniques. Donc là encore, ce n'était pas du travail d'amateur. Il fallait des gens pour former. Et De Gaulle était bien... Il n'aimait pas les gens du SOE, hein, justement, parce que des Britanniques qui opéraient en France sans sa permission, c'était un scandale. C'était encore un nouveau fachoda. Mais ça fait rien. Il était bien obligé de reconnaître que c'était indispensable. D'ailleurs, ses propres agents, pour les envoyer en France, il fallait les envoyer avec des avions ou des vedettes anglaises. Hein, et très souvent, ce qu'ils trouvaient sur place, c'était déjà des maquis qui étaient encadrés par le SOE. Donc il a été assez ingrat de ce point de vue-là. Mais chez le général, il faut toujours faire la part du général et de son double. Le général, en tant que Charles de Gaulle, il se rendait bien compte qu'il devait une fière chandelle au SOE et aux Anglais pour avoir formé la résistance, pour leur transmettre les messages, parce qu'il y a aussi les fameux messages de la BBC, ça aussi, c'était à la discrétion des Anglais. Et puis il y avait... le général de Gaulle, le chef de la France libre, c'était son double. Et celui-là, évidemment, pour lui, la France ne pouvait pas devoir quelque chose à l'Angleterre. C'était pas possible. Surtout quand elle était en état d'infériorité. Mais quelque part, il savait très bien que ces gens du SOE, dont la plupart étaient soit français, soit francophones, c'était des gens qui ont risqué leur vie, dont la plupart l'ont laissé d'ailleurs sur place. En tant qu'homme privé, De Gaulle savait très bien ce qu'il leur devait. Simplement, il n'allait pas le chanter sur les toits. Parce que le prestige de la France ne pouvait pas s'accommoder d'une dépendance à l'égard de la perfide Albion. Et on tourne en rond, mais bon, il faut bien voir la mentalité très particulière du général De Gaulle. Hein, mais... Oui.
Il y a 6 mois, il y a une pièce qui passe au théâtre Montparnasse à Paris sur Churchill de Gaulle. Justement, le débat Churchill de Gaulle, juste avant l'entrée en guerre des Alliés en France. J'ai eu l'occasion de le voir il y a 4 mois, c'est remarquable. Il passe toujours. En êtes-vous l'auteur, en êtes-vous partenaire? Parce que c'est tout à fait ce dont vous parlez.
Oui, je suis d'accord avec vous. Ils ont pillé mon livre, d'ailleurs, avec ma permission tout de même. Mais c'est très bien, c'est très subtil. Les dialogues sont très bien faits. Et les acteurs sont très convaincants. De Gaulle aurait simplement demandé pourquoi on avait pris un Belge pour jouer son rôle. Mais il le fait très bien, hein, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Ça continue ?
Il y a encore 15 jours,
quelqu'un... Ah oui. Mmh. Normalement, ils étaient censés arrêter en décembre, mais ça a eu tellement de succès que ça a continué très au-delà.
D'autres questions ?
C'est simplement une petite remarque à propos du SOE, parce qu'il se trouve qu'effectivement, l'historiographie française elle-même a peu travaillé sur ce thème-là. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles tout ce que la résistance doit au SOE est resté un petit peu dans l'ombre. Et récemment, on est en train de réexhumer justement tout cet aspect. Voilà, simplement.
Alors, c'est tout à fait vrai. Et il y a très peu de temps, on s'est décidé à éditer un livre qui était resté sous le manteau pendant des décennies, qui est le livre de M.R.D. Foote sur SOE in France, le SOE en France. Hein, je ne sais plus si c'est Perrin ou Talandier, je crois que c'est Talandier, qui l'a publié. C'est un énorme bouquin. Il n'y a pas tout dedans, mais déjà, ça donne quand même une très bonne idée de ce qu'ils ont fait. Hein.
Donc, oui.
Au sujet des maquis FFI, personnellement j'étais au maquis de La Roche-sur-Yon en Vendée, et c'était le maquis FFI à bien distinguer par rapport au FTP. Et le maquis FFI, effectivement, a eu des parachutages à Dompierre-sur-Yon, et dans ces parachutages, il y avait ces mitraillettes Sten et les fusils mitrailleurs Bren que l'on n'aurait pas pu utiliser facilement, même j'étais moi à la réception pour remonter, enfin le lendemain pour remonter les arbres, il fallait les remonter, il fallait remonter dans trois, etc. On n'y connaissait rien. Et il y avait un lieutenant anglais qui avait été parachuté dans le maquis de la Roche-sur-Yon, certainement pour ce rôle d'instruction. Voilà. Et c'est une petite histoire
du SOE
qui vérifie 100% ce que vous avez dit tout à l'heure.
Mais...
Le problème, c'est ces caquetages de pensionnats de jeunes filles, donc ces engueulades récurrentes entre De Gaulle et Churchill, ça avait une influence sur les parachutages, donc ça et sur les communications, sur les arrivées d'agents, etc. Donc c'était néfaste, hein, pour le déroulement de la guerre secrète en France, évidemment. Malheureusement, il y a toujours ces problèmes-là. Oui.
Quels ont été leurs comportements et leurs relations au moment du projet d'union franco-britannique de monnaie en juin 40?
Eh bien, il n'y croyait ni l'un ni l'autre. Hein. De Gaulle, d'ailleurs, l'a écrit dans ses mémoires, un passage amusant, considérant les difficultés qu'il y aurait à fondre en une seule nation, la France et l'Angleterre, à supposer que ce fût souhaitable, naturellement. Hein. Mais l'idée dans les deux cas, hein, ça leur paraissait un petit peu... Il y a que Jean Monnet, hein, qui pouvait avoir des idées pareilles, mais c'était une l'idée. On savait qu'au même moment, Paul Reynaud était en but au défaitisme de son gouvernement. C'était le 16 au soir. Il fallait trouver une idée. Et donc Churchill a dit très justement, en ces temps dramatiques, il ne faut pas qu'on soit accusé de manquer d'imagination. Donc voilà, l'idée, c'était de pousser, de mettre un petit peu de backbone, de colonne vertébrale, si vous voulez, dans des ministres dont on savait qu'ils avaient furieusement envie de capituler, et des généraux aussi. Donc ils n'y croyaient pas, mais ils étaient tout prêts à le promouvoir. Vous voyez ?
Bien, on va remercier... encore une question ? Non. Remercier M. François Cassoli pour sa brillante conférence et très... pittoresque, je cherchais le mot qui convenait. Donc, merci beaucoup. Alors, je rappelle qu'il reviendra nous voir cette année encore pour nous faire une conférence encore plus pittoresque, d'après ce qu'il nous a dit.
C'est vrai.
Il s'appelle Les Rois du Destin, qui dit que l'histoire, ben, souvent tient à des petites. Circonstances particulières qui fait que le cours des choses va d'un côté ou de l'autre. Voilà.
Alors, ça fait ça.
Donc, je vous propose que vous achetez, si vous êtes intéressé par les ouvrages, ils sont à la sortie. Vous essayez de payer par chèque, s'il vous plaît. Sinon, on acceptera sous la contrainte des espèces. Et ensuite, si vous voulez...
C'est autre chose que la conférence. Formidable.
Merci.
Avec son caractère, son intelligence, c'est un type formidable.
Oh, c'est brillant. Ah oui, brillant.
Il a fait un tas d'erreurs dans sa vie.
Oh, ou combien. Mais ça lui a toujours porté chance.
Et malgré...
C'est pas juste.
Ça fait toujours terminé.
Merci, monsieur.
Quelque chose de positif. Hein.
Bah oui.
Enfin,
merci.
Je vous félicite pour le livre parce que c'est 1000 fois la conférence. Hein. Oh là là, c'est d'une richesse.
Vous avez vu que dans sa vie, De Gaulle n'occupait pas une très grande place. On a tendance à fortement exagérer.
Alors, c'est un livre qui m'a été offert par mes petits-enfants pour mes 90 ans. En 2016. Alors voilà, les mots qui m'ont mis, si vous complétez, vous voyez, là.